J'ai trouvé un nouveau slogan pour Tarco. Encore plus vite que vite. Si on ira vers le chaos plus vite que les autres, on y arrivera avant eux. Tous avec moi. Plus vite. Plus vite. Plus vite. 570, ça suffit pas. Je veux un TGV qui avance à 1000 à l'heure. Hitler voulait bâtir un empire pour 1000 ans. Moi, je veux un TGV qui aille à 1000 à l'heure, qui traverse la France en une heure. Stop. L'île Perpignan. En une heure. Plus vite. Plus vite. Frankreich, la France. La France, c'est plus... Non, la France, c'était... On va faire passer la ligne à bordure, tiens.
On va faire passer la ligne à bordure. Oh, bah dis donc, mon tracteur.
Quoi, qu'est-ce qu'il a?
Oh, bah, il a fait peur à mes chevaux.
Non, plus vite, plus vite, plus vite. Avec Sarkozy, plus vite, je suis le meilleur. On arrivera au chaos avant les Américains et les Chinois. On va les battre, on va les battre. Plus vite, plus vite.
Bonjour à tous, avis aux vilaines et vilains, autres bretons et autres gens de plus loin. Une marche pour réfléchir à la simplicité volontaire et la décroissance. Partira le samedi 7 avril prochain, place de la mairie à Rennes, à 9h du matin. Donc nous, on part marcher au nord de l'Ille-et-Vilaine, donc du 7 au 15 avril, pour mettre en pratique la convivialité, le partage et l'autogestion. Vous pouvez nous rejoindre pour la semaine, pour quelques jours ou pour une soirée. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'infos au 06 29 63 08 46 ou en allant sur le blog http://pasatavert en un seul mot et sans accent .theblog.com. À très bientôt.
C'est une auditrice de la France profonde qui est très très contente parce que les députés qui seront pas réélus aux prochaines législatives, ils vont être encore payés pendant 5 ans parce qu'ils pourront plus venir dormir sur les bancs de l'Assemblée nationale et puis ils auront plus de chauffeurs. Alors il faut quand même les comprendre et les indemniser un petit peu. Bon, ben c'est sûr, hein, les gens en fin de droit, ils comprennent pas trop bien, mais c'est quand même normal qu'on les remercie, ces gens qui se sont sacrifiés pour la France. À bientôt, merci, au revoir.
Oui, bonsoir, je suis Dominique dans les Pyrénées-Orientales, et voilà, je téléphonais parce que j'ai reçu un email de quelqu'un qui me dit que, a priori, une loi purement scandaleuse vient d'être votée au Parlement dans le secret le plus total. Jean-Louis Debré, ex-président de l'Assemblée nationale et nouveau président du Conseil constitutionnel, a fait porter à 60 mois la période d'indemnisation des députés non réélus, au lieu de 6 mois précédemment. Traduction, désormais après son mandat, un ex-député français percevra son salaire intégral pendant 5 ans, sans rien foutre. Profitant de l'intérêt du peuple et des médias pour les élections présidentielles, cette nouvelle loi honteuse a été votée en catimini et à l'unanimité. Réagissons.
Bon voilà, j'écoute les infos et encore une fois de plus, du mauvais. Ces femmes qui sont licenciées dans ces cuisines à Libourne, je comprends pas comment on peut laisser faire ça. Comment on peut licencier des gens dans notre pays pour laisser ces grosses entreprises aller travailler en Chine, aller sous-payer d'autres gens ailleurs, quoi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais comment on peut faire ça, quoi? Il faut que les gens se réveillent aujourd'hui. Il suffit plus d'aller voter seulement pour un ou deux pèlerins. Il faut faire quelque chose, quoi. On n'a plus le droit. Il n'y a aucun politique qui dit qu'il fera quelque chose là-dessus. Aucun. C'est pas vrai, quoi. Ça met en rogne, quoi. Ça met vraiment en rogne. D'un côté, on nous parle de chômage et de l'autre côté, on licencie des gens parce que monsieur l'entrepreneur a décidé d'aller travailler ailleurs et pour pas cher. C'est inadmissible. On ne devrait pas accepter ça. Je suis pour l'ouverture des frontières pour plein de partage avec d'autres pays, mais pas dans ces conditions. J'ai fait du façon de ma creuse et je suis écœurée, quoi. Tous les jours, c'est des nouvelles comme ça. Tous les jours, vraiment. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir.
Un écœurement qui doit être partagé par pas mal de Françaises et de Français. Ce cri du cœur de cette AMG, cette auditrice, elle parle d'une histoire qui se passe à Libourne. Eh bien, ça ressemble beaucoup à une histoire beaucoup d'histoires qui se sont passées de la même façon, analogue, mais une histoire qui se passe actuellement à Poix du Nord. C'est dans le Nord, Poix du Nord, et c'est là qu'on va aller aujourd'hui parce que, eh ben, voilà, c'est la même chose, c'est un plan social, c'est une série de licenciements. Et on va voir, puisque cette auditrice disait, oui, il n'y en a pas un qui a une idée et qui répond à ces questions-là. On va voir aussi ce que répondent les candidats, au moins certains d'entre eux, à ces situations de délocalisation suivies de plans sociaux. Autour d'une chose très importante, la valeur travail. À valeur travail, ça ne veut pas dire quelque chose qui avale le travail. Non, c'est la valeur travail. Et c'est un reportage de François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BACIJ au 01 56 40 37 37. Et notamment, ce témoignage d'une auditrice suite à l'émission de lundi où Ignacio Ramonet du Monde Diplomatique nous racontait cette stupéfiante loi qui risque de rentrer en application très prochainement en Pologne.
Identité nationale et immigration. Identité nationale et langue. Du fond de mon lit d'hôpital, j'apprends que le candidat Sarkozy entend imposer un test de langue aux immigrés. S'ils échouent, dehors. Et je rigole. Le médecin qui m'a sauvé la vie il y a un mois est africain. La malade, que je ne suis presque plus, ne serait de toute façon pas de ce monde si ce test de langue avait existé après la Première Guerre mondiale, car ma petite grand-mère irlandaise ne parlait pas un mot de français quand elle est arrivée ici. À la fin de sa vie, son voisin prof de lettres était admiratif devant sa culture littéraire. Bon, ça c'est rien. Mais plus grave pour la gloire de la France, son identité nationale. Marie Curie elle-même n'aurait pas pu passer ce test, et on l'aurait illico renvoyée vers sa Pologne natale. Car en cherchant un peu, on trouve des quantités de scientifiques, érudits et célébrités qui ont fait l'honneur ou la réputation de la France, qui n'ont appris le français qu'une fois installés ici. Peut-être même que le petit Corse du pont d'Arcole, quand il a débarqué de son île pour l'internat de l'école militaire, ne parlait pas bien le français. Vous imaginez, à cause d'un Sarkozy de l'époque, la France sans Napoléon? Remarquez, il se serait rallié, se serait allé se faire voir chez les Anglais, la face de l'Europe en aurait été changée, et il n'y aurait peut-être jamais eu de Sarkozy en France.
Oui, bonjour à toute l'équipe de la BACIJ. J'y suis. Pour rebondir sur la situation politique en Pologne que vous venez d'évoquer avec vos confrères du monde diplomatique, j'aimerais vous lire le mail d'une collègue et amie universitaire polonaise que j'ai reçue il y a à peine quelques jours. Voilà ce courriel. Comme beaucoup de mes collègues, je suis bouleversée par la loi qui vient de passer et qui oblige toute une partie intellectuelle à remplir une déclaration où on affirme avoir été ou n'avoir pas été agent sous le communisme. Ensuite, toutes les déclarations seront vérifiées par le procureur car tous sont soupçonnés de mentir. Si on refuse de signer, on va être licencié d'office. Ce sera donc mon cas, car je trouve offensant et humiliant, tout particulièrement pour les militants anticommunistes, de signer ce type de papier. Si quelqu'un a un doute sur moi, qu'il aille fouiller dans les archives, et s'il y trouve quelque chose, on ira régler les choses au tribunal. Je refuserai donc de participer à cette folie furieuse des frères Kaczynski, et on verra bien. Je ne me suis pas laissé faire en 1978, quand j'avais refusé d'écrire une lettre de félicitations à l'ambassade soviétique, et j'ai été menacée de ne pas réussir mon bac. Ce n'est donc pas maintenant que les menaces vont m'effrayer. Le Sénat de l'université a écrit au Premier ministre. Les journalistes se révoltent, mais la loi reste en vigueur. Elle concerne 700 000 personnes. Le plus dramatique, c'est de savoir que ce sont les Polonais tout seuls qui ont choisi les deux clowns et cette idéologie qui exige de chercher les agents partout et surtout d'accuser, de menacer tous ceux qui ne partagent pas les idées des jumeaux. Jusqu'au 15 avril, les autorités universitaires doivent nous transmettre les déclarations. On a exactement un mois pour les signer. Et si on ne le fait pas, on doit être licencié avec interdiction d'exercer le métier pendant 10 ans. De plus, ceux qui ne signeront pas seront automatiquement considérés comme menteurs en matière de lustration. Ce qui met encore plus de piment, c'est qu'à l'université, il faut apporter cette déclaration au chef du personnel, toujours le même depuis 1980, agent des anciens services. Mais comme il a juste une fonction administrative, il n'est pas concerné par la déclaration et si ça se trouve, il sert toujours fidèlement le pouvoir. Hier, nous nous sommes réunis en petit comité pour discuter ensemble et franchement, j'ai de la peine pour certains collègues qui se sentent moralement oppressés mais qui en même temps ont super peur et hésitent terriblement. Je suis dégoûtée. Je t'embrasse. Voilà. Je crois que ça se passe de tout commentaire. Je me demandais comment aider cette collègue et amie polonaise. Je crois que c'est fait en lisant son mail sur le répondeur de là-bas si j'y suis. C'était Lydie de Valence. Au revoir.
Bonjour, ici c'est le repère de l'île de Groix, le Bateau Ivre. Et c'est pour dire que les repères reprennent, on a arrêté pour l'hiver, là. Ça reprend donc vendredi 6 avril. Et là, on va essayer de faire un continu. C'est-à-dire, on reprendrait aussi le repère le samedi soir. Parce que souvent, il y a des gens qui discutent bien un soir, ils aimeraient bien se retrouver un autre soir. Donc, on va essayer de faire ça pendant un certain temps, sur deux soirs, voir ce que ça donne. Donc, repère à 9h du soir, le vendredi et le samedi, le bateau ivre, l'île de Croix. Merci.
Alors, monsieur Bernard Arnault dit, à l'heure où sans cesse... Je voudrais que vous écoutiez, les filles.
Oui, on est tout oui.
À l'heure où sans cesse on évoque les délocalisations, réussir à faire fabriquer tous ces produits dans l'Hexagone par des artisans français de grande qualité pour les vendre à des Chinois, engendre chez moi avant tout un réflexe de fierté, car nous créons des emplois et nous en développons alors que d'autres les délocalisent. Alors que lui aussi délocalise ses produits.
Oui, mais nous, on est en train de crever, hein. C'est pas possible. C'est révoltant.
À l'entendre, on croirait vraiment que c'est lui qui garde ses usines alors que c'est lui le premier qui délocalise.
Mesdames, messieurs, merci de venir assister à cette réunion pour la présentation de nos résultats 2006. Ben, c'est une réunion assez facile parce que les résultats sont très bons et on peut dire que le groupe en 2006 a encore accru son avance sur le marché mondial du luxe grâce au succès constant de nos marques phares et à la montée en puissance de nos marques en situation d'émergence. Tous les groupes d'activité ont été fortement profitables en 2006.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis, avec François Ruffin, la valeur travail.
Pour nos marques phares, c'est-à-dire...
Flight number 2.
Vous devez faire combien de pièces, là, alors?
Dans ce modèle-là, il en faut à peu près une centaine.
Ah, on t'a présenté? François Ruffin.
On s'est présenté tous les deux.
Ah bon, d'accord. C'est Marien, c'est FDT, mais... En 2003, peut-être.
Non, 2005.
2005, je me rappelle.
Si c'était au moment du référendum.
Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on ait dit non.
Si, il était venu ici.
Non, on a passé, hein.
Bon, de l'eau.
Ouais. On est, tu ouvres la cantine?
Oui.
Des résultats records pour 2006 avec une croissance de 16%, bénéfices nets en hausse de 30% à près de 2 milliards d'euros avec des ventes qui ont bondi de 10% à plus de 15 milliards d'euros, sans parler du CAC 40 2006, qui a été une année exceptionnelle pour les entreprises du CAC 40. Les actionnaires vont se gaver de dividendes records. C'est la nouba chez les actionnaires. Vous avez reconnu de quoi est-ce qu'on cause de LVMH, leader mondial du luxe, et vous avez entendu Bernard Arnault, le patron, se réjouir de ces excellents résultats. Comment on peut savoir tout ça, par exemple, hein, tout ce qui se dit là? Eh ben, il suffit d'aller chez le dentiste ou dans la salle d'attente du médecin, là où vous pouvez trouver l'excellente hebdomadaire Paris Match. Et Paris Match, par exemple, en juillet 2004, demande à Bernard Arnault, c'est un journaliste courageux qui pose une question audacieuse, qui lui dit ceci, je cite, « Là où Jean-Paul II a échoué en Russie et en Chine, vous, le pape du luxe, vous avez réussi à pénétrer ces marchés, vous exportez le rêve dans des pays pauvres. » Ce contraste entre le luxe et la précarité économique vous culpabilise-t-il parfois? Eh bien, répond Bernard Arnault, non, car je ne vois pas cela sous cet angle. Le débat sur la pauvreté dans le monde est un autre sujet. À l'heure où sans cesse on évoque la délocalisation, réussir à faire fabriquer tous ces produits dans l'Hexagone par des artisans français de grande qualité pour les vendre à des Chinois, engendre chez moi avant tout un réflexe de fierté et nous créons des emplois et nous développons alors que d'autres délocalise. Fin de citation. Vous avez entendu cette citation, ces lignes, dans la bouche d'une des ouvrières de l'entreprise où nous nous trouvons avec François Ruff. Eh bien, je pense que dans les jours qui viennent, ou semaines qui viennent, l'excellente hebdomadaire Paris Match va faire un rectificatif, ou du moins une suite à ce reportage, car ce n'est qu'en partie vrai. On va voir comment, en vérité, LVMH délocalise, ne délocalise pas soi-même, lui-même, mais fait délocaliser. C'est-à-dire que le fournisseur, le sous-traitant, si l'on veut, eh bien, est contraint à délocaliser, puisque LVMH fait des pressions pour obtenir des prix plus bas sur des produits comme Kenzo, Givenchy, etc., que sur lesquels travaillent ces ouvrières avec lesquelles nous trouvons dans cette petite entreprise qui s'appelle ECCE. Elles sont 147, elles sont les dernières ouvrières du prêt-à-porter masculin haut de gamme, et leur jour semble compter. C'est avec elles que nous sommes, mais pas seulement jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, la valeur travaille.
La France, pays d'assister, je le supporte de moins en moins. A commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa, ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aime même pas sortir, c'était idiot. Pourquoi toujours était les gens. Mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le haut. Merde, je tente à droite, je veux savoir comment ça fait. Et puis merde, je tente à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai, ça me rendait malade. La fête de l'humain, au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4 même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat. Mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul atrio qui applaudit. Et puis merde, je veux ta droite. Les imprévus ne privent pas de chance. Je suis fier, je veux ta droite. Marre d'être taxé à outrance. Te faire au bagne, quitter la France. Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa.
Les salariés de CCE qui rentrent dans la cantine, que des femmes, notamment en premier cas, se remplissent.
On va vous parler de la réunion qui a eu lieu hier en CCE à Paris. Donc, on était là pour parler de la gestion prévisionnelle de l'emploi et ses compétences. Donc, ils nous avaient remis un document que nous avions eu 2-3 jours avant,
La deuxième version.
Et Poix du Nord, aujourd'hui, est éliminé de ce document. C'est-à-dire qu'il veut bien parler de la gestion prévisionnelle de l'emploi sur l'avenir, mais sans parler de Pouan. Hein, parce que nous, on est éliminés complètement. On est déjà fermés pour lui. Hein. Donc ça, on ne l'accepte pas. D'accord, hein. Parce qu'on existe encore. Hein. On est encore dans l'usine. Donc pour lui, 15 septembre, on ne parle plus de nous.
Oui.
Ah oui.
Il y aurait aucun.
Alors, ne soyons pas défaitistes. Hein. Il faut quand même qu'on se bat parce que... Parce qu'on est la dernière entreprise française prête à porter de haut de gamme, masculin, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a s'attaquer à LVMH ou qui fait plein de profits et puis qui ne veut pas donner de travail à ECCE, à nous, alors qu'on est, on représente une petite goutte d'eau, hein, 100 milliards de profits quand même, hein, c'est inadmissible. Hein, et lui, il dort tranquille, on l'embête pas, hein, parce que lui, il y a le chômeur, lui chez les pépettes, lui dit mon marchand rapporte, il dira, ça rapporte plus, il dit qu'elle pote. Hein. Donc, il dit, ah si, c'est vrai, hein, en clair, plus, Poids du Nord, c'est plus possible. Donc, fais les comptes parce qu'on coûte trop cher. Donc, c'est ça la réalité. Et puis, on va le laisser tranquille. Il va replier ce petit cahier, puis il va dire bye. Hein? Parce qu'on les laisse tranquilles. On est dans notre petite usine. On travaille comme si rien n'était. Et puis, il va dire comme d'habitude, il n'y a pas de bénéfice. Gna 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 gna. On coûte trop cher. Il faut se débarrasser de nous. Puis, il va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez très bien, ah, je le répète, ils auront beau mettre la volonté qu'ils veulent, les moyens qu'ils veulent, hein, on n'aura pas d'emploi. Parce qu'on a beau nous dire, on va faire des formations, on va faire tout ça, ça va être difficile pour nous, surtout à nos âges. Hein. Ah, ça, on le sait. Ah, parce que quand vous voyez que Ségolène, elle dit, la vertu des vieux, nous, on est faut bon faire chaud. Hein. Alors, les deux moyens de pression aujourd'hui, LVMH, et de veau. On va se concerter ensemble de ce qu'on va faire. Hein? Ouais. Et puis c'est les élections. Hein? Ils nous disent qu'ils vont faire quelque chose, mais de loin. Parce que quand il y a des petits roquets qui nous disent, vous savez qui c'est que je parle. Hein? Quand ils disent qu'il faut travailler plus longtemps, nous on veut bien travailler plus longtemps. Mais on nous supprime notre usine, notre emploi. Donc surtout, surtout le 22 avril,
gros sur la patate, elles en ont les ouvrières de CCE à Poix du Nord. Poix du Nord, on s'en doute, c'est dans le Nord, et puis ça s'entend. Et ben voilà, triste annonce, l'entreprise fermerait ses portes en septembre prochain. Elles viennent de le dire, dernière usine en France de prêt-à-porter masculin haut de gamme et qui travaille. Alors cette usine c'est ECCE, mais le donneur d'ordre c'est le groupe LVMH. ECCE travaille à 95% pour LVMH, pour des marques prestigieuses comme Kenzo, Givenchy, etc., qui sont des marques contrôlées par LVMH. Donc, bien sûr que LVMH, pour son image, et l'image de Monsieur Bernard Arnault, dit « Nous créons des emplois en France, nous ne délocalisons pas », sauf évidemment que on fait faire le boulot par des fournisseurs, par des sous-traitants divers et variés. C'est une technique souvent observée et qui, eux, alors, délocalisent et puis font délocaliser dans la délocalisation et ça descend comme ça et le boulot se fait de façon de plus en plus sordide. Mais ceux qui ont la marque, ceux qui sont dans la vitrine, peuvent prétendre effectivement avoir les mains blanches. Pour vous donner une toute petite idée, un costume, c'est des beaux costumes, hein, haut de gamme, fait par ces femmes qui sont des petites mains, qui sont des couturières, sort à peu près au coût de, on va dire, autour de 100 euros d'une entreprise comme celle-là, et est revendue par LVMH autour de 1000 euros. Bon, ça fait quand même une petite marge de 100 euros à 1000 euros. Alors que là, l'entreprise va délocaliser en Pologne, ou en Bulgarie, ou en Roumanie, ou en gros, pour simplifier, ce sera à peu près, le coût sera de 30 euros. Donc, l'entreprise, le sous-traitant, le fournisseur, ECCE, lui, va faire une économie évidemment importante. Hein, va passer de 100 euros le costard à 30 euros. Voilà. Et mais le prix de vente ne changera pas. Donc on voit que on est là dans une logique de pression permanente pour faire baisser les prix. Évidemment, la dérégulation, ben c'est ça. Il n'y a plus aucune protection. Les pouvoirs politiques sont-ils condamnés à l'impuissance face à ce genre de choses? c'est ce qu'on observe depuis quand même pas mal d'années déjà. On va voir quelles sont les promesses des candidats avec François Ruffin. On va aller les voir pour écouter ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Pour l'instant, on écoute ces ouvrières réunies.
Est-ce que vous avez des questions? Parce que bien souvent, on remonte et puis on dit, ouais, elles n'ont pas fait chier, elles n'ont pas fait là. N'hésitez pas, même si ça ne nous plaît pas, on est prêts à les entendre.
Plus, c'est des personnes qui prendraient leur départ volontaire.
Au départ, la direction aurait voulu que ce soit des départs volontaires. Et elle nous avait convoqué au départ, et c'était dans ce but-là.
Et nous, on n'a pas voulu. Et l'inspecteur du travail n'a pas voulu non plus, parce que les départs volontaires de 2005, de 2006, les trois quarts, maintenant, ils pointent à la NPE. Et s'ils ne répondent pas à chaque convocation, ils suppriment leur... C'est pas des blagues, hein.
Je voulais préciser aussi... Maintenant, c'est plus au bout de trois fois qu'ils peuvent vous sucrer pour un refus de travail.
Une fois
suffit. C'est-à-dire que Marie-Agnès, on lui a proposé un travail, 1 heure au matin à Cambrai, 1 heure après-midi, qu'elle habitait du côté de Valenciennes. Ils lui ont dit, c'est votre premier refus de travail. C'est-à-dire que même si la prochaine fois elle refuse, elle peut être complètement rayée. Mais même des 2 heures par-ci, 2 heures par-là, on s'y trouve tout le temps.
La différence avec d'être tout de suite à la NPE, c'est quand même plus difficile que quand on a une cellule de reclassement, on peut quand même négocier de dire, s'il vous plaît, les filles quand elles sont licenciées, elles sont sur le cul, faut moralement, bon, donc Gilda, là-dessus c'est vrai, elle l'a fait. Pour toutes celles qui se sont inscrites à la cellule, bon, on va prendre son temps, on va vous laisser un peu souffler, c'est vrai, là-dessus c'est vrai, elle les tarabuse pas en disant, allez, il faut chercher tout de suite un travail, elle les laisse moralement quand même un peu tranquille de se remettre, si vous allez à la NPE, il n'y a rien à foutre de nous, on est sur le marché du travail, on sort tout de suite du marché du travail, ils veulent nous remettre dans le travail tout de suite. Alors c'est vrai? Il nous propose n'importe quoi. Ça, c'est vrai.
Et tout ça, ce sont des pressions gouvernementales pour faire diminuer le chômage.
Quand on me dit ça me met en rage. De toute façon, s'il vous plaît, c'est important. Les Jaconaux, putain qu'ils ont ça, c'est dit, ça les embête pas. C'est archi faux. Si on les embête pas, c'est qu'ils n'ont plus assez dit. D'accord? Alors quand quelqu'un me dit, ouais, ça fait des années, qu'est-ce qu'il a du mauvais pas? Ouais, ils ne travaillent pas. Ils travaillent... Ouais, mais c'est vrai, hein.
Nous ne parviendrons pas à bâtir un nouveau modèle de réussite si nous ne réhabilitons pas le travail. Parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas d'échouer ou de réussir, c'est d'essayer de se mesurer et de faire en sorte qu'à la fin de sa vie, lorsqu'on se retourne sur son parcours, on puisse se dire « J'ai fait quelque chose de mon existence ». La France qui travaille doit être encouragée, doit être récompensée, doit être remerciée, doit être montrée en exemple.
On a écrit, oui, Marie-Hélène le sait, on a écrit à Sarkozy, on a téléphoné 4 fois.
5 fois même.
On n'a toujours pas de réponse. Donc hier, on lui a retéléphoné en lui disant qu'il ne bougeait pas, qu'il ne lève même pas le petit doigt. On ne nous a rien répondu. Pas de nouvelles.
On a essayé.
Et qu'est-ce que vous en pensez quand Sarkozy dit qu'il va revaloriser le travail
Ça, c'est des foutaises. Maintenant, c'est des foutaises. Là, c'est entièrement foutaise. C'est les actionnaires, les gros, le reste des petits comme nous, il n'y en a rien à faire. Ouais. Tout ça, c'est pour une question d'argent, c'est tout.
Une question de profit.
Profit, voilà.
Quand vous entendez aussi que le LVMH, c'est la 7e fortune du monde, bah là, ça vous fout les boules aussi. Hein. C'est ce que je dis. Hein. Pour lui, on est une goutte d'eau dans l'océan. Hein.
Vous savez un peu
Qui était le témoin de Nicolas Sarkozy lors de son mariage?
Elles sont pas convaincues. Elles sont pas convaincues de l'envolée lyrique de notre ex-ministre de la police. Alors, François Ruffin s'est quand même a voulu en savoir plus. Qu'est-ce qui va se passer, puisque en ce moment, vous êtes au courant, on est en campagne électorale. Donc, il est allé voir Xavier Bertrand, le porte-parole du candidat Sarkozy. Et voici la réponse de Xavier Bertrand.
Hier, je me trouvais à ECCE, à Poix du Nord. Donc, c'est une entreprise de commercialisation et de confection européenne qui est un sous-traitant du groupe LVMH. La plupart des salariés touchent entre 1000 et 1100 euros par mois. Et il se trouve qu'il va y avoir une délocalisation de la production de costumes Givenchy et de costumes Kenzo vers la Pologne parce que le donneur d'ordre, en l'occurrence LVMH, a estimé que c'était trop coûteux. Quand on sait que dans le même temps, le groupe LVMH a fait à peu près 2 milliards de profits l'an dernier, que les dividendes vont être en augmentation de 30% pour cette année, que le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, a vu sa fortune augmenter de 3 milliards l'an dernier, est-ce que ça, c'est pas un facteur de dévalorisation du travail, qui est une telle différence de l'ordre de 240 000 entre le revenu de Bernard Arnault l'an dernier et celui d'une salariée de ECCE?
Oui, mais bon, on va éviter les amalgames qui frisent parfois un tout petit peu la démagogie quand même. Parce que le vrai, ce qui nous intéresse là, c'est quoi? C'est la situation de ces salariés-là.
Oui.
D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il faut rendre les délocalisations beaucoup moins attractives. Et dans ces cas-là aussi, ce qu'il faut participer, c'est à la revitalisation d'un bassin. Mais que d'un autre côté aussi, nous devons nous poser la question des charges que nous avons dans notre pays. Quand nous voulons aussi aujourd'hui diminuer les prélèvements obligatoires, c'est pas justement pour évoquer le sujet dans la campagne, c'est parce qu'on sait pertinemment que les prélèvements obligatoires qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, sur les salariés, sont de véritables freins en la matière.
Je reviens néanmoins à cet exemple, parce que ces salariés, l'encadrement de CCE a écrit à 5 reprises à Nicolas Sarkozy, d'autant qu'ils ont découvert que Bernard Arnault avait été témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Et donc,
quel raccourci vous voulez faire, s'il vous plaît?
Quand Bernard Arnault est témoin du mariage de Nicolas Sarkozy avec M. Martin Bouygues, que Arnaud Lagardère...
Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît?
Ben, je me demande si, en tant qu'avocat d'affaires, Nicolas Sarkozy n'aura pas tendance à défendre davantage...
Je ne vous permets pas de dire ça. C'est un raccourci qui, de votre part, est quand même très, très surprenant. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce
que vous voulez dire, s'il vous plaît?
Ben, je vous le dis. Je me demande s'il n'y aura pas tendance à davantage défendre les intérêts de personnes qui sont les premières fortunes de France que les intérêts de personnes qui touchent 1000 euros à Poix du Nord.
Je ne sais pas si c'est votre question personnelle ou votre point de vue personnel, mais je peux vous dire une chose. C'est là où Nicolas Sarkozy se rend pour les entreprises. Je peux vous dire qu'eux ont bien compris. Le seul qui les défend vraiment, c'est lui. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo.
C'est ça, votre interview?
Du populisme. Ça vous paraît du populisme, alors?
Bien sûr. Quand vous vous dites, ouais, mais quand même, c'est un témoin de mariage, donc il va défendre ces gens-là qui sont nantis par rapport aux salariés.
Oh, le propos.
Il n'y a pas de fatalité. Il y a une France d'après. Les Français ont envie d'une France où la promotion sociale sera accessible à tous ceux qui s'en donnent les moyens. Par leur travail, par leurs efforts, par leur mérite. Ils ont envie, les Français, de pouvoir travailler plus pour gagner davantage. Ils ont envie d'une France qui croit en l'égalité des chances. Ils ont envie de la France d'après. Imaginons la France d'après.
Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on va demander à des gens qui ont déjà un travail de travailler plus, alors qu'on a des chômeurs qui demandent à travailler?
Après la journée ici, on n'a pas fini, il y a encore chez nous, hein.
Les femmes, elles ont toujours une double journée.
Double journée. Alors on est costaud, hein.
Moi j'ai une heure de bus tous les matins, tous les soirs. J'habite pratiquement à Valenciennes.
Et pourquoi vous prenez le bus alors?
Parce que je pouvais pas venir en voiture, ça me reviendrait trop cher. Le bus c'est 19 euros par mois.
Vous partez à quelle heure le matin?
7h20, de chez moi. Le bus il me prend au bout de la rue et il fait tous les ramassages. On fait tous les villages. Donc on fait Valenciennes, Marly, Salta, Curgy, Gomny, pour arriver ici à 8h10.
Et vous gagnez combien?
Le SMIC. 1095.
avec une prime de production. Hein.
Oui.
Mais là, vous prenez le bus à 7h20 le matin, c'est ça?
Oui.
Vous pourriez pas le prendre à 6h20 et puis travailler une heure de plus?
Jamais de la vie.
Bah, pourquoi vous dites ça?
Mais pourquoi je travaillerais une heure en plus? Non. Non. Pour prendre le bus à 6h30, je me lève déjà à 5h30. Voilà. Si je devais travailler une heure en plus, il faudrait que je me lève à 4h30. Non, mais c'est pas possible.
C'est un peu la France de la paresse, là, ce que vous me décrivez. Refuser de prendre le bus à 6h20 le matin.
Pas du tout. C'est la France du partage. C'est la France du partage, pas de la paresse. Bah ouais. Toutes les heures supplémentaires qui peuvent être faites par le personnel, qu'on les donne à quelqu'un qui est au chômage. Et ça fera... Non seulement la personne aura un salaire, et ça fera des cotisations en plus pour les caisses. Alors qu'on arrête. Non. Qu'ils fassent quelque chose déjà pour qu'on garde nos emplois.
Ouais, les emplois sont compromis. On est dans cette entreprise, je vous le rappelle, CCE à Poix du Nord, où les 147 ouvrières et ouvrières spécialisées donc dans la haute couture sont très inquiètes, plus qu'inquiètes, pour leur sort et le sort de leur entreprise qui est sur le point de délocaliser, alors que cette entreprise, je le rappelle, travaille pour le groupe LVMH. Alors vous avez entendu François Ruffin avec ses amalgames qui frisent la démagogie, comme lui a fait observer Xavier Bertrand. Alors il faut, voilà, maintenant, une fois qu'on a posé la question à la porte-parole d'un des candidats, il faut aller poser la question aux porte-paroles des autres candidats. Je rappelle ce qui nous a été dit par Xavier Bertrand. La question, évidemment, c'est de diminuer les charges, diminuer les prélèvements obligatoires. Va-t-on avoir un autre son de cloche à l'UDF? C'est pas sûr.
Premièrement, François Bayrou pense qu'en réduisant les charges qui pèsent sur le travail, on libérera l'emploi. Et c'est ainsi qu'il propose une mesure immédiatement applicable, qui est de permettre à chaque entreprise, à toute entreprise, de créer 2 emplois nouveaux sans charge.
Donc ça, c'est la première mesure, allègement de charge.
Oui. Et puis, il y a une deuxième mesure aussi importante et qui est très simple à mettre en œuvre et qui consiste à permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus pour gagner plus. Ce que je disais tout à l'heure, curieusement, en France aujourd'hui, c'est pas possible. Si on a envie de travailler plus, on ne peut pas le faire. Alors, ce que nous voulons faire, c'est que les heures supplémentaires, donc à partir au-delà des 35 heures, soient payées aux salariés 35% de plus. Alors, vous allez me dire, si on paye les salariés 35% de plus, ça va coûter plus cher à l'entreprise. Eh bien non. Car les charges sociales que paye l'entreprise seront réduites d'autant.
Bonjour, je vais vous faire visiter depuis le début la construction du costume. J'ai fait toute ma carrière ici. J'ai 33 ans de présence. Donc c'est un sacerdoce quand même de travailler ici. Ici, c'est encore une partie de la coupe et il y a une discussion encore.
Pour faire un petit complément dans leur petite vie, ça, tu l'as pas vu dimanche soir à la télé, à M6. C'était écœurant.
Qu'est-ce que j'ai regardé dimanche? J'ai dormi.
Il a une grand-mère de 65 ans, elle s'ennuyait chez elle, alors elle a voulu retrouver un petit travail. Elle a retrouvé un petit travail dans une agence de voyage. Elle regagnait 2000 euros par mois, et bien comme ça allait. Grand-mère, elle touchait là bientôt 2500 euros de pension. Il prend la place des jeunes.
Tout à fait. Je suis
celui qui n'a pas de travail.
Et qu'est-ce que vous en pensez alors de l'idée travailler plus pour gagner plus?
Non, moi je suis pas d'accord. Moi, je dis qu'on doit être payé pour ce qu'on travaille, donc à temps normal, nos 35 heures comme on le fait.
Et
un salaire correct. Et s'il y a du travail en plus, qu'on le donne à celui qui n'en a pas, bon sang.
Il y a 5 millions de chômeurs.
Mais oui.
Sont informés quand même, hein, ces femmes, 5 millions de chômeurs, c'est un chiffre qui n'est pas nécessairement excessif, d'autant qu'on est un peu au courant des magouillages et des trifouillages des chiffres du chômage ces temps-ci. Alors, la suite, ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi pour ces ouvrières? Autrefois, on promettait des formations, des recyclages, etc., etc. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et Chantal Lamborion, tout spécialement, qui vient voir ses collègues.
Ah ouais, une bonne tête, alors ça va?
Moi je voudrais une mauvaise tête.
Non, mais
ça
va.
Ah bon? Ouais, tu vois.
On est pas
plein là. Bah, c'est pas toujours au même point.
Toujours au même but.
Ok.
Il n'a pas de boulot.
Rien. Trouve rien, faut attendre. Trouve rien. On se présente. Je suis trop vieille. Je suis au chômage.
Oui, mais tu touches
pas. Je suis en fin de droit. Ouais, ouais. Moi, je suis en fin de droit. Hein. Moi, j'ai fait 15 jours là, à AED. À côté de chez moi, j'ai travaillé 15 jours. Donc, j'avais postulé donc l'année dernière. Et puis, quand j'y suis allée, ben, j'ai vu que c'était des jeunes. Mais malgré mes 42 ans, je me présente, on me dit, vous êtes trop vieille. Et il y a déjà 2 ans, ça. À 40 ans, 39 ans, 40 ans, on est déjà trop vieux. On se sent inutile.
C'est combien de temps que vous avez quitté
ECCE? 4 mois, hein, ça fait 4 ans au mois de juin. 4 ans au mois de juin. Alors en 4 ans, j'ai fait une formation dans la vente, en alternance en entreprise. Et malgré avec ça, bah, aucune débouchée. Aussi bien en libre-service qu'en prêt-à-porter. Et je postule dans tout, et il n'y a rien. Rien.
Ça fait des dégâts quand même.
Bon, bien sûr, ça fait des dégâts.
On ne va pas dire que cette personne, elle ne bouge pas. Elle a même été jusque dans l'Aisne pour chercher du travail.
Oui, c'est vrai. Ben, je me suis renseignée, j'ai pris le beau temps, et puis j'ai cherché les adresses, et puis j'ai écrit. Et j'ai eu des réponses, positives, négatives. C'était travailler qu'une journée par semaine. Moi, une journée par semaine, ça ne m'intéresse pas.
Tu manges 7 jours, hein?
Ben, bien sûr. Et après, j'ai fait dans le Pas-de-Calais. Là, dans le Pas-de-Calais, bon, je me suis déplacée. Et c'est pareil, négatif. Tout est négatif, tout.
Et vous continuez à faire des démarches, là?
Ah, je continue toujours. Toujours, toujours. Et je me déplace aussi dans les magasins, les grandes surfaces. Et j'essaye de voir le responsable, de voir le directeur. C'est toujours négatif. Toujours négatif. Vous savez, bon, c'est bien parce que j'ai mes parents, mais sinon c'est dur. Hein.
Moralement?
Très très dur. Hein. Tout, toujours, tout.
Il vous reste combien là maintenant?
Bah là, je suis en ASS, donc là j'ai eu un renouvellement de 6 mois. 445 euros à peu près. Normalement, c'est une année. Alors au mois de juillet, bah, point d'interrogation. Puis tous les à côté, bah, c'est supprimé. Est sorti. Les vêtements, les soirées, tout ça c'est supprimé.
Plus de vacances.
Plus de vacances, plus rien. On compte par jour ce qu'on mange. Hein. Si on a dépensé trop aujourd'hui, bah, demain, on mange pas de viande. Hein. C'est ça. Hein.
S'il n'y avait pas tes parents, tu ne pourrais pas vivre.
Bah non, mais je serais à la rue. Mais je serais à la rue.
Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez les candidats à l'élection présidentielle? Déjà, vous soupirez. J'ai encore même pas posé la question, déjà, vous soupirez.
Allez-y, continuez.
Bordonnez les bonnets blancs.
Oui, exactement.
Qui disent qu'il faut valoriser le travail, revaloriser le travail.
Pour la délocalisation, ça fait 15 ans qu'on en parle de la délocalisation. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils n'ont rien fait pour ça. Ils n'ont rien fait.
Et donc, travailler plus pour gagner plus, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, dans quelle entreprise?
Elle n'a pas déjà de travail.
J'ai déjà pas de travail. Et comment je vais faire? Je vais faire des heures supplémentaires, travailler plus pour aller où? J'ai pas de travail déjà. Je peux pas faire d'heures supplémentaires en n'ayant pas de travail. Déjà 35 heures, il y a des endroits, les postes, non, c'est pas 35 heures, c'est 25 heures. Même si c'est pas 20. Mais du temps partiel.
Vous avez eu des postes comme ça?
Bah, bien sûr. En magasin libre-service, 25 heures. Quand on demande un temps plein, ils veulent pas, non, c'est un temps partiel. C'est comme ça maintenant. C'est beaucoup de temps partiel.
C'est quoi, t'as attrapé après l'émission?
Ouais, moi j'ai accroché. Alors,
Et puis elle dit, je lui dis qu'au deuxième tour, elle ne m'avait pas convaincue pour voter pour elle au deuxième tour. Elle ne répondait pas. Il va pleuvoir d'usine en France. Hein. Vous n'avez pas répondu à la question. Hein. Tout ce qu'elle a dit, c'est que la Turquie, que son d'un foutre, la Turquie, qu'elle va rentrer dans l'Europe. C'est pas un d'un foutre, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail. Alors, si tu veux, après, il y avait deux gars avec elle, et on voyait que les questions dérangeaient parce qu'elle ne répondait pas. Alors, il disait, bon, allez, c'est vous la grue, ou pas ? Alors, je dis, bah, attendez, je n'ai pas lui parler, vous pouvez exagérer quand même. Et je dis, toi, alors, moi, tu n'as jamais travaillé de ta vie, je dis, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais. Les 147, ils attendent une réponse, ça.
Hein. Sinon, tu aurais voulu proposer de venir dans le site.
Et je lui dis,
je voudrais simplement rappeler que la question de l'avenir des jeunes dans une France qui veut se relever est une question de première importance. Je veux gagner pour les jeunes d'abord la bataille de l'emploi.
Alors voilà, Marie-Hélène Bourlard, qu'on entend depuis le début de ce reportage. Elle a essayé de poser la question à Ségolène Royal du sort de ces 147 ouvrières, mais voilà, la réponse a été évasive. Évidemment, Ségolène Royal est surbookée, donc elle n'a pas pu répondre comme elle l'aurait souhaité, elle n'en a pas douté, à cette porte-parole. Alors, François Ruffin, en bon reporter, en bon grand reporter qu'il est, est allé voir le porte-parole de Ségolène Royal et du Parti Socialiste, Claude Bartholomé. Voici sa réponse.
Là, j'étais dans le Nord, dans une usine du Nord, donc en terre ouvrière, en principe terre socialiste, en tout cas terre de gauche. Et quand on évoque l'élection présidentielle avec les ouvrières, quand on parle de la candidate socialiste, la réponse qui est systématique, c'est...
Justement, il faut qu'elle fasse disparaître cette expression de désespérance. Et je crois qu'elle a commencé à le faire. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de l'accompagner à Charleville-Mézières, où elle a eu l'occasion de rencontrer les salariés de l'entreprise Chausson, les salariés de l'entreprise Porcher, et elle a commencé à décliner son pacte présidentiel, notamment sur la dimension travail, notamment sur la dimension délocalisation et notamment sur l'enjeu pour les prochaines années de la reconquête industrielle.
Quand j'entends ce silence et pff, oh ben alors là c'est plus nos affaires, j'entends aussi derrière ça des années de divorce entre le Parti Socialiste et un certain milieu ouvrier. Je vois le moment où Lionel Jospin refuse de rencontrer les salariés de l'U. Je vois le moment où Lionel Jospin réfute le fait qu'il ait un programme socialiste. Enfin, c'est comme si, dans ce pff, il y avait 20 années d'histoire, 20 années de divorce contenu, quoi.
Mais c'est vrai. C'est vrai. Je crois que ce pff, comme vous le faites si bien, c'est l'expression que l'on entend souvent, notamment chez les plus modestes, que la politique ne peut plus rien pour eux. Vous savez, moi, j'ai pas eu le droit à cette expression pendant la campagne électorale, mais j'ai eu plusieurs fois des femmes, des hommes qui m'ont dit, mais finalement, aujourd'hui, l'on sait qu'on ne pourra rien laisser à nos enfants autre chose que notre propre misère. Quand d'un seul coup, ils ont le sentiment que, de toute façon, c'est fini, dès que l'on est, le chemin est tracé, il n'y a pas de possibilité d'en sortir, pourquoi voulez-vous qu'ils s'intéressent à la politique ? La politique, c'est pas un spectacle. Il faut être capable de démontrer qu'elle sert à quelque chose pour permettre de changer la vie, comme on le disait du temps de François Mitterrand, et que l'on réussisse à montrer qu'elle sert aussi à redonner du sens à l'égalité républicaine. Sinon, ils vont penser que la politique n'est qu'un spectacle qui a lieu à l'Assemblée nationale ou dans les médias, sans aucune prise sur leur propre vie, et ils vont au mieux tomber dans l'abstention, au pire, dans les bras de n'importe quel populiste, avec tous les dangers que ça peut représenter.
Et voilà, Claude Bartholomé, donc, du Parti Socialiste. Alors, bon, pour finir cette heure, on va faire un petit jeu avec les ouvrières des 147 ouvrières de CCE. Enfin, c'est un jeu de François Ruffin, célèbre maintenant pour ses amalgames qui frisent la démagogie.
Qui c'est qui est fort en calcul ici ?
En calcul, ça dépend de moi.
On n'a pas l'habitude de calculer les grosses sommes.
Vous voulez pas essayer ?
Non.
Vous êtes un sous-traitant. de LVMH. Oui. Donc là, vous avez sorti une calculatrice, une Casio. Vous savez qui est le patron de Louis Vuitton Moëtensi?
Bernard Arnault. Et sixième fortune en France. Et non, la première fortune en France, pardon, et la sixième dans le monde. Voilà. 2 milliards de profits. 2 milliards de profits.
Alors ça, c'est les profits de LVMH. Ouais,
on est ébloui par ça.
Mais vous savez combien il a gagné, Bernard Arnault, à lui tout seul, l'an dernier?
Non. 1 million d'euros? Ou 1 milliard?
100 millions? Allez-y, je vous dis plus ou moins.
100 millions.
Plus.
2 milliards d'euros?
Plus.
Oui, c'est pas 6 milliards d'euros?
Moins.
3 milliards d'euros.
Ouais, 3 milliards d'euros à peu près. Il a gagné, sa fortune s'est augmentée l'an dernier d'à peu près 3 milliards d'euros en 2006. Et en 2005, sa fortune s'était augmentée aussi de 3 milliards d'euros. Si on divise ce qu'il a gagné l'an dernier, c'est 3 milliards par votre salaire sur un an. Oui. Combien d'années vous
faites? Avec nos 40 ans, on n'y arrivera jamais à 3 milliards.
Allez, faites le calcul.
Je ne sais même pas combien qu'il y a de zéro à 1 milliard.
9. Je crois que c'est 9.
C'est combien de zéro à 1 milliard?
C'est 9, hein.
Alors, divisé par votre salaire annuel.
Ouais. 13 000, ça fait que 13 000.
13 000 même. Ouais. Hein. Divisé par 13 000. Je n'ose même pas faire le légal.
230 000, 769 années.
Ah oui, années.
Et c'est avec notre savoir-faire qui se l'est empoché, cet argent. Alors que nous, on est vraiment au SMIC. Au ras des pâquerettes, après 32 ans d'ancienneté, je gagne 1060 euros. C'est honteux. Et c'est encore trop par rapport au pays de l'Est. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Travailler pourquoi? Pour un bol de riz? On peut pas.
Donc ça veut dire que depuis l'âge des cavernes, vous deviez travailler, quoi.
Bah oui, tout à fait. Et même ma descendance, il faudra longtemps qu'elle travaille pour rattraper tout ça quand même.
Il va falloir qu'ils en passent du temps à la machine à coudre.
Mesdames, messieurs, merci de venir assister à cette réunion pour la présentation de nos résultats 2006. Ben, c'est une réunion assez facile parce que les résultats sont très bons et on peut dire que le groupe en 2006 a encore accru son avance sur le marché mondial du luxe grâce au succès constant de nos marques phares et à la montée en puissance de nos marques en situation d'émergence.
Merci à toutes et à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Marie-Hélène Bourlard et les salariés de CCE, à François Zocchetto, Claude Bartholomé et Xavier Bertrand. Nous vous signalons également que ce soir à 22h15, Arte diffusera le documentaire La Traversée d'Elisabeth Levray. Tous les ans, des centaines d'Algériens traversent la Méditerranée pour se rendre au pays. Le temps des vacances, une série de portraits qui illustrent toute la diversité des situations. Et puis, à partir de lundi, accrochez-vous à votre transistor à 15h pour la base si j'y suis. On va vous proposer toute une série sur les années 80. Ce qu'on vient d'entendre là pendant cette heure trouve probablement une partie de son origine dans ces années 80. On va servir comme repère pour cette série de deux livres. L'un de François Cusset qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'intitule « Les années 80 ». La décennie, le cauchemar des années 80, et puis le livre de Serge Halimi, Le grand bond en arrière. Et avec toute une recherche d'archives, une longue recherche d'archives faite par Renaud Lambert, Serge Halimi, François Cusset et d'autres comme Frédéric Lordon, l'économiste, Pierre Rimbert, Gilles Balbastre, vont commenter ces années-là et en présenter un éclairage qui, vous le verrez, trouve très très souvent écho avec ce que nous sommes en train de vivre et qui nous hante et nous tourmente. Et puis, bien sûr, ce sera aussi nostalgie assurée. On aura des tas d'illustrations et des tas d'échos sonores de ces années. Donc, tout ça, c'est à partir de lundi. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez également réécouter cette émission aussi bien que sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Derain et Romain Luquien. Ses réalisations, Yann Chouquet et Colline Guyenne, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, vous attend vos réponses, vos observations dans le répondeur de la bassine. J'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.